Bien, Sandrine Kiberlin, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre rendez-vous sur Radio Shalom.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Alors, Une jeune fille qui va bien, qui est votre premier film, votre première réalisation, qui a été présentée donc en section parallèle, je crois, à un certain regard. La semaine de la critique, donc au dernier festival de Cannes, et qui a été très très bien accueillie. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, mais c'est que c'est un film qui ressemble, qui est le portrait craché de son titre. C'est vraiment l'histoire d'une jeune fille qui va bien. C'est incroyable comme vous avez vraiment très très bien trouvé le titre ou que vous avez très bien traité l'histoire correspondant au titre que vous aviez peut-être initialement choisi.
Oui, bien sûr, j'avais choisi le titre pour raconter cette histoire et c'est le parti pris du film. C'est vraiment raconter l'histoire d'une jeune fille qui va bien et que rien ne devrait empêcher d'aller bien d'ailleurs. Et donc on la suit dans son chemin de vie à 19 ans, qui est un chemin où tout est possible et où c'est souvent l'âge le plus élancé, j'allais dire, le plus fougueux, où tout est permis, tous les choix sont nouveaux, tout le monde est à découvrir. Et je trouvais très fort d'avoir ce parti pris et cet angle et ce point de vue d'avancer avec elle qui ne sait rien de l'histoire puisqu'on est au présent avec elle, entourée de sa famille, de ses amis, de sa passion du théâtre, pour dénoncer ce qui pourrait venir interrompre cet élan, une folie qui a été celle que nous on connaît puisqu'on a de l'avance sur elle comme spectateur. Et donc je pense qu'on passe tout le film à se dire non, pourvu qu'il lui arrive rien. Et d'autant que l'idée en écrivant était qu'on s'attache à elle très fort et donc d'en faire, bon évidemment j'ai trouvé Rebecca Marder donc c'était déjà un bon point, mais aussi de scénaristiquement faire en sorte, même s'il se passe pas tant de choses au début, qu'au fur et à mesure, puisqu'on est dans le quotidien de cette fille qui est comme une chronique de ce qu'elle va découvrir, comme si elle écrivait justement un journal, on est avec elle, voilà. Et peut-être que trois fois dans le film, on sait où on est, l'unité de temps et évidemment la menace qui va avec cette époque, puisqu'on est en 42 et qu'on sait qu'on est dans une famille juive française, voilà, c'est dit. Une fois que c'est dit trois fois, on n'a pas besoin de montrer ce qu'elle ne veut pas voir, puisqu'elle a 19 ans et qu'elle veut voir ce qui est beau dans sa vie et ce qui est le cas de toutes les filles de 19 ans d'ailleurs, qui sont pressées d'aller rencontrer leur futur amoureux, qui sont pressées d'aller à leur cours de théâtre parce qu'elles veulent réussir le conservatoire, qui sont pressées tout court, donc la caméra est toujours en mouvement avec elle, qui nous emmène vers ses copains, vers ses amours, vers tout ça. Sauf que nous, on sait, spectateurs, puisqu'on a eu trois fois ces informations, j'espère pas banales d'ailleurs, de cette époque, on sait que quelque chose se trame et qu'elle ne peut pas imaginer d'ailleurs, puisque c'est inimaginable, alors que ça a été évidemment très réel et affreusement réel, mais elle ne le sait pas. Et je me suis mis en fait dans la peau de ces gens qui ne savaient pas, et je traite de l'avant bascule quand voilà, nous on sait qu'à un moment ça va basculer.
Alors justement, vous mettez le point sur on va pas dire cette espèce de déni, mais en tout cas cette illusion que tout va aller mieux.
L'illusion de son âge. Tout va aller mieux, c'est on peut pas imaginer que quelque chose allait.
Le pire n'est jamais certain.
D'abord, le pire n'est jamais certain, et puis avant de le vivre, le pire, on le sait pas. Nous, on sait pas ce qui va se passer dans deux ans par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec ce que je raconte, mais on a quand même vécu un changement radical de vie. À un certain niveau, et puis on ne savait pas qu'on allait être confiné avant de l'être, enfin on ne savait pas qu'on allait être privé de jouer au théâtre, que les magasins allaient être fermés, enfin on ne savait pas tout ça. C'est un peu c'est ça que je raconte, c'est qu'est-ce qui fait qu'on croit aux informations qu'on nous donne, qui nous percutent un jour, et puis on ne veut pas y croire le lendemain, et puis l'information est encore plus forte trois jours après, puis quatre jours après.
Surtout qu'à l'époque, il n'y avait ni la télé, ni les réseaux sociaux, c'était la
radio, et puis c'était son âge aussi qui fait qu'elle a pas du tout d'œillères, mais elle ne veut pas voir que quelque chose se trame. Elle n'est pas du tout écervelée, mais elle n'est pas comme son père qui, lui, est plus à même
c'est ce que j'allais vous
de
dire.
Les protéger, de voir concrètement à l'extérieur que quelque chose se passe, et de plus en plus. Mais c'est surtout que, comme nous, on le sait, je ne voulais pas appuyer et enfoncer un clou qui était déjà enfoncé. Je ne voulais pas qu'il y ait de symbole de guerre. Je voulais parler de la guerre sans la montrer. Je voulais parler de la guerre par le meilleur, c'est-à-dire... Il y a eu des destins extrêmement joyeux, j'en ai parlé à des survivants de cette époque, qui n'ont jamais presque été aussi heureux, paradoxalement,
ouais,
qu'en étant cachés par des gens exceptionnels, mmh, à cette époque et en vivant des moments, ce qui existe dans le journal d'Ellenberg, qui, ouais, qui en parle, dans le, certains témoignages comme ça, où on lit que ça a été des années de vie, où Robert Badinter qui me disait que effectivement la menace donnait une pulsion de vie parfois, oui, plus forte, parce que justement
on était dans l'urgence,
sentait le temps compter, et ouais, donc on était encore plus amoureux, encore plus, ouais, fumeur de clopes, encore plus voilà. Et donc c'est un peu ça le film, c'est un peu cette pulsion de vie, ouais, qu'on devrait pas voir s'interrompre jamais.
Et ce qu'il y a de très beau également, alors évidemment c'est aussi le personnage du père qui est joué par André Marcon, qui lui évidemment on sent qu'il est au courant, qu'il a quand même une certaine expérience ou en tout cas une maturité, mais qui ne veut pas inquiéter sa fille. Et vous traitez également de cette passion pour un métier que vous connaissez, qui est celui de comédien, avec ses cours de théâtre, avec cette passion, avec cette envie, avec cet espoir de pouvoir entrer au conservatoire, de pouvoir obtenir des grands rôles. Mais je dirais pas seulement des comédiens de théâtre, aussi des comédiens de cinéma, parce que moi j'ai toujours pensé, comme beaucoup de cinéphiles, que les comédiens ou les acteurs de cinéma avaient quelque chose d'un peu plus, on va dire, valorisant, c'est qu'on les filme de très près, sur le visage, contrairement aux comédiens de théâtre, sauf si on est au premier rang, et que du coup, on ne peut absolument pas tricher sur ses expressions de visage, sur son regard, sur ses froncements de cils, et c'est incroyable comment les acteurs que vous filmez, que ce soit Rebecca Marder, bien sûr, mais aussi India Eyre, Anthony Bajon, etc., jouent avec leur expression et qu'on devine tout. On n'a même pas besoin de dialogue. Et je pense bien évidemment à la scène finale, qu'on ne révélera pas, mais qui est. On a l'impression que vous avez fait le film pour cette scène qui serait à montrer dans toutes les écoles de cinéma pour montrer combien en moins de quelques secondes, on peut tout dire, quoi. C'est hallucinant.
On peut tout dire sans dire.
Sans dire,
c'est,
exactement.
C'est l'apogée de ce parti pris qui est de ne pas montrer pour encore plus donner envie de voir et la fin effectivement qu'on ne dévoilera pas se fait presque quasiment sans mots. Il n'y a qu'une phrase et puis c'est des regards entre deux actrices et puis c'est un mélange de joie infinie qui demandait énormément d'ailleurs. On l'a fait en une journée, mais il y avait presque trois films à faire en un, parce qu'il y a la joie extrême de l'espoir du
exactement
concours, du résultat qu'on attend, et puis il y a ce chant contre chant entre Irène et Viviane, sa meilleure amie, et puis entre une serveuse et quelque chose qui se trame derrière. Enfin, c'est comme le résumé de toute l'histoire, cette scène de fin.
Ouais.
Donc il fallait pas la louper. Je me souviens de là, j'étais un peu sous pression, mais j'ai un peu fonctionné comme ça pour l'écriture du scénario. Comme j'étais toute seule devant mon papier, je suis partie de la fin. Parce que je suis partie sur l'idée, évidemment, de suivre une jeune fille dans tout ce qu'elle a de plus
innocent.
De plus joyeux.
De plus joyeux.
Et de plus prometteur, voilà, pour raconter la fin. Et donc, voilà, en ayant la fin et cette héroïne, après, j'ai construit tout le monde autour d'elle et tout ce qui allait rendre haletant la chronique de cette jeune fille et puis cette espèce de deux histoires en une qui font que j'ai jamais non plus lâché la tension sous-jacente comme ça, qui fait que le spectateur, j'espère, a peur pour elle tout du long et se dit non, c'est pas possible avec ce qu'elle vit, qu'il se passe quelque chose d'autre et tout ça, à l'âge qu'elle a. Parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas, ils pouvaient pas concevoir que le monde allait à ce point-là
basculer. Ouais. Alors, on a aussi l'impression que vous avez voulu rendre hommage à on va dire à ces représentants de cette communauté juive, on va dire très intégrée, laïque, avec le recul que vous avez, avec l'expérience que vous avez, avec votre histoire familiale. Hein, moi, je me rappellerai toujours de ce que vous aviez dit à Michel Drucker il y a une vingtaine d'années, qui avait évoqué vos origines polonaises et vous l'aviez repris en disant « juif polonaise ». Aujourd'hui, en 2022, comment vous définiriez le fait d'être juif, d'assumer son identité juive? Mais d'une façon laïque, au-delà évidemment de l'affection pour la cuisine de grand-mère, les films de Woody Allen, etc., tout ce qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est qu'être juif laïque aujourd'hui en France, en 2022, après tout ce qu'on a vécu?
En fait, c'est moi, mes origines, mes ancêtres, ce que je suis. De même que quand on est catholique, on s'en souvient, on a envie de s'en souvenir, ça fait partie totalement de moi. J'ai même pas besoin de le dire, c'est inhérent à ce que je suis, c'est mon ADN, c'est... ça m'émeut, je sais pas, c'est ça fait parce que c'est beaucoup, c'est tout effectivement une culture, c'est des traditions que j'oublierai pas, c'est mes grands-parents, c'est ce qu'ils ont traversé de fait. Et puis c'est ce que j'ai envie aussi de, j'ai envie de m'en souvenir, j'ai envie, ça fait partie de moi. Enfin, c'est dans le film, il y a un Shabbat,
oui.
Un Shabbat, j'allais dire non pratiquant, ce qui est ma façon d'ailleurs de fêter Shabbat. J'allume moi une bougie tous les vendredis, deux bougies tous les vendredis pour me, mais juste pour me souvenir de l'envie comme ça de cette lumière qui me rappelle que je veux me souvenir du fait que de d'où je viens en fait. Exactement. De mes racines en fait. Rien de plus, c'est être juif, c'est juste s'en souvenir en fait, ça fait partie de ce que je suis.
Et on vous en parle beaucoup quand vous avez préparé le film, puisque voilà, vous avez beaucoup de contacts dans le milieu du cinéma avec les producteurs, avec des acteurs, avec comment les gens ont réagi d'abord quand vous avez décidé, annoncé de réaliser votre premier film, et quand vous avez révélé donc le thème de ce long métrage.
Ils ont été saisis par le, je pense par le point de vue, par c'était assez surprenant pour eux parce qu'ils lisaient, ils avançaient dans la lecture, le titre plus le scénario qui est ce qu'on voit finalement maintenant. Et c'était assez culotté parce que c'est un film, j'étais sûrement beaucoup, très inconsciente, parce que c'est un vrai film de mise en scène. En fait, ils attendaient beaucoup de la mise en scène, parce que la scène dont on parlait de fin dépend beaucoup de la façon dont on la filme. C'était écrit exactement comme elle est aujourd'hui, mais ils me disaient, bon, maintenant, on va attendre de voir ce que tu vas faire avec ta caméra, quoi. Comment tu vas cadrer, comment tu vas... l'exprimer cette fin, et puis tout le long du film, ce parcours comme ça, avec l'entourage de cette héroïne, ils étaient. Et sur le thème, ils étaient saisis par le point de vue qui était très différent de ce qu'ils connaissaient de cette époque et de ce qu'on avait déjà fait autour de cette période historique. Le fait qu'il n'y ait aucune reconstitution aussi de l'époque, c'est un film très intemporel volontairement, il n'y a pas de. Il y a, comme vous disiez, très peu de symboles de la guerre. On ne voit pas. C'est un peu comme dans les livres de Modiano où on parle plus de l'absence et du hors-champ que du.
On a les yeux de Rebecca, en fait, dans
on
le film.
On a les yeux de Rebecca, et donc elle veut voir ce qu'elle veut voir. Et donc les rues sont plutôt désertes, ou alors habitées par son amoureux dans sa tête, ou alors transcendées par l'âge qu'elle a. Et donc, ils ont été très pris par ça. Ils m'ont interrogé beaucoup sur comment je voyais les choses. Parce que ça ne suffit pas d'être l'actrice connue. Il faut aimer le scénario. Et après, me demander, voilà, un peu... J'ai beaucoup expliqué ma vision des choses. Et ils m'ont fait confiance.
Il était hors de question que vous donniez ce scénario à un autre réalisateur. Vous aviez vraiment envie de le réaliser. Quoi. Vous l'avez écrit pour le réaliser vous-même.
Pour le réaliser. J'avais vraiment envie de raconter ça au cinéma, et je rêvais de faire un film, mais je me disais de quel droit, mais j'ai travaillé avec des grands metteurs en scène, je sais qu'il y en a beaucoup, et j'ai attendu vraiment d'avoir l'impression d'avoir à raconter ma vision des choses sur un thème précis, et d'avoir vraiment une nécessité de le raconter comme ça. Je me suis dit, il faut raconter. Il ne faut pas raconter comme ça a déjà été fait. Il faut essayer de raconter au plus près de ce que moi j'ai envie de dire de cette époque. J'avais lu des témoignages, je me suis beaucoup documentée du reste pour que ce soit toujours, évidemment, on ne peut pas tricher avec cette époque, évidemment, mais je voulais vraiment le raconter avec mon regard à moi. Un film, c'est un point de vue. On peut raconter... ce serait intéressant d'être 15 cinéastes à avoir le même thème
le même
à raconter,
sujet,
mais
ouais.
Comment le raconter? C'est comment le raconter qui fait un film. Il y a des histoires d'amour qui ont été traitées mille fois, mais quand Truffaut raconte une rupture, c'est pas comme quand Piala la raconte, c'est pas comme quand Sidney Pollack le raconte, c'est pas comme... Voilà.
Bah, c'est ce que disait Woody Allen, hein, que lui, ça l'intéressait pas les compétitions, les Oscars, oui, parce qu'en fait, voilà, il voudrait le même sujet, un peu comme ce qu'avait fait avec les Liaisons dangereuses Miloš Forman et Stefan Frears. Et c'est vrai que c'est deux points de vue complètement différents.
Oui, quoi. Un film, c'est un point de vue.
Et vous avez eu finalement cette chance de présenter ce film à la Semaine de la Critique. Il a été très très bien reçu. Ça vous a rassuré, surtout après, comment dire, avec ce laps de temps entre la découverte du film et la date de sortie, vous arrivez, on va dire, plus sereine, avec de confiance.
Bah oui, parce que c'est un film, ça reste un film d'auteur très personnel et mon premier film, donc c'est la dernière fois que je pourrais dire que c'est ma première fois.
C'est mon premier film.
Et c'est vrai que quand on m'a annoncé que le film était sélectionné à la Semaine de la Critique, ce qui avait été le cas de mon court-métrage, et j'avais déjà été très émue de ça parce que je me sentais comme légitimisée, parce que quand on débute, et c'est beau de débuter à mon âge quelque chose, de rebondir comme ça, de commencer quelque chose à mon âge, je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais toujours faire dans 10 ans, rebondir encore, et c'est comme rajeunir, en fait, finalement. Et qu'on me reconnaisse comme réalisatrice, je me suis dit, mais donc ils ont compris que c'était une vraie nécessité, que c'était vraiment... moi, j'ai pas de vide à combler, j'ai pas de manque comme actrice.
Je suis
tellement chanceuse et tellement occupée, je dois dire, par mon métier... que c'était vraiment du temps à prendre pour réaliser. C'était nécessaire pour moi de faire ce film.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'en fait, autant actrice, on est finalement au service d'un producteur et évidemment d'un cinéaste, d'un scénariste, et bon, ça prend 2 mois, 3 mois, et
d'un désir.
Voilà, l'objet d'un désir.
Là, je devenais, moi...
Vous étiez le moteur. Prend du temps, ça prend de l'investissement psychologique, du temps, on va dire, du vrai temps personnel.
J'attends d'avoir le temps, en fait. Ouais. Jusque-là, j'avais trop de choses à faire, pas que dans mon métier d'actrice, j'avais aussi des priorités dans ma vie personnelle, et puis d'un seul coup les enfants sont grands, j'aurais jamais pu faire ce film avant. Ça prend 4 ans de vie non-stop, ça devient une obsession. L'obsession, elle était ailleurs avant. Même si ce film taraudait, j'attendais un peu de pouvoir le faire, quoi.
Et c'est le départ donc aussi d'une future carrière aussi, alors peut-être pas régulièrement de réalisatrice, mais en tout cas ça vous a donné l'envie de continuer quand un autre sujet se présentera, et sera mûr.
Vous avez tout dit dans la phrase, il faut que l'autre sujet arrive aussi nécessaire que celui-là, avec pareil un point de vue que je juge suffisamment personnel pour oser, quoi, pour oser y retourner. Mais j'espère, parce que j'ai vraiment été très heureuse sur ce tournage, j'ai vraiment... adorer faire ça, être à cette place-là. Je trouve que ça m'a donné une confiance que j'avais pas à un autre endroit.
Je vais terminer avec une question plus légère, un peu à la façon de Rebecca Irène. Surtout ma femme m'a demandé de vous poser la question, comme pas mal également d'auditrices et d'auditeurs. Et la carrière de chanteuse, parce que beaucoup ont adoré votre premier album. Alors est-ce que c'est une parenthèse ou vous allez rebondir ?
Les filles, 2 minutes. Mais je vais refaire de la chanson. On est en train d'écrire. On est toujours ensemble avec Alain Souchon et Pierre, son fils. On est tous les trois. Je leur donne des textes et puis ils inventent des musiques. C'est vraiment le confort absolu et le rêve absolu. C'est même le monde à l'envers de donner mes textes à un Souchon pour qu'il fasse des musiques. Je dois dire, j'en reviens toujours pas. Mais on s'amuse jusqu'à ce que ça devienne plus concret quand j'aurai plus de temps et quand Alain aura plus de temps, parce qu'il est aussi sur une tournée, lui. Mais c'est toujours... On a des rendez-vous récurrents autour du piano et c'est un bonheur, quoi. Mais je vais le refaire. Là, j'ai 7... maquette.
Ah oui, en effet.
Et donc, ça va devenir quelque chose, mais c'est chaque chose.
Il faut trouver le bon moment.
Oui, moi, je ne fais jamais de calcul et les choses deviennent à un moment vital et ça s'arrête et je ne fais que ça. Voilà. Là, mon film, c'est encore autre chose, parce que mon film, j'ai l'impression que c'est... Les gens qui vont aller voir mon film vont voir tout de moi, en fait, plus que quand ils vont aller me voir comme actrice dans les films des autres. Là, tout à coup, j'ai décidé de tout. J'ai décidé de la mèche de cheveux de Rebecca ici et pas là, de la moustache d'Anthony Bajon qui veut ressembler à son père qui en a une, de
l'endroit où vous alliez poser la caméra,
les cadres,
vous alliez éclairer
la lumière, les références de couleurs. le fil rouge qui est toujours là, un rouge assez intense dans le film qui a été choisi depuis l'écriture, les musiques que j'avais déjà en écrivant dans la tête.
La modernité des personnages, on a l'impression que c'est des personnages qu'on croise aujourd'hui en 2022.
Oui, c'est une Irène de tous les temps. Ouais. C'est une Irène qui peut être une Irène qui marche jusqu'au Bataclan avant de... Voilà. C'est une Irène qui traverse les époques, c'est notre sœur à tous.
Merci infiniment, Sandrine Kiberlin, d'avoir accepté notre interview. Et puis, meilleurs vœux 2022.
Oui, vous aussi.
Merci. Et je rappelle qu'Une jeune fille qui va bien sera sur les écrans donc le 26 janvier prochain. À très bientôt, Sandrine.
Merci encore.
Merci.